BFM Business, midi, l'heure H, avec Karine Verniolle.
Bonjour, bienvenue, c'est l'heure H, nous sommes ensemble jusqu'à 13h pour faire un tour de l'actualité en cette mi-journée. Et au menu aujourd'hui, la rentrée du gouvernement. Eh ben oui, il faut bien y passer par là à un moment donné. Conseil des ministres en ce moment même, avec quelques dossiers chauds sur la table, la réforme des retraites et le budget 2020 notamment. Derniers arbitrages, notamment sur les niches fiscales et sociales des entreprises. Le projet de loi de finances sera présenté d'ici la fin septembre au Parlement. On fera le point juste après le journal avec François Eckal, président de Fipeco. Nous reviendrons également sur le chaos politique en Italie, désormais sans gouvernement à la veille du sommet du G7 à Biarritz et puis la tournée des pop-up de Boris Johnson pour tenter de trouver un nouvel accord sur le Brexit. Enfin, les compagnies aériennes dans la tourmente, appel à la grève chez Transavia, difficultés financières chez Aigle Azur et XL Airways. Les acteurs français du transport aérien sont-ils prêts à affronter la consolidation du secteur qui se profile? On en parlera avec un spécialiste de l'aérien à 12h40. À Paris, le CAC 40 a ouvert en hausse. Il est actuellement en hausse de... Eh bien voilà, de 1,41%. Merci beaucoup Antoine Larigauderie. On vous retrouve à la fin du journal pour faire un point sur les marchés. Mais tout de suite, c'est le journal avec Étienne Braque. Étienne, on commence donc avec la rentrée pour l'exécutif.
La rentrée avec ce Conseil des ministres qui se tient actuellement, une rentrée potentiellement explosive entre la réforme des retraites, le budget et les arbitrages sur les niches fiscales. Bonjour Nicolas Dose.
Bonjour.
Tout ça, c'est autant de dossiers sensibles.
Oui, la réforme des retraites, c'est la réforme explosive, celle qui met les gens dans la rue régulièrement, qui fait tomber les gouvernements. Alors, on a eu des annonces au début de l'été. Maintenant, il va falloir mettre des actes, il va falloir passer devant les partenaires sociaux qui vont être reçus les 5 et 6 février et 6 septembre prochains. Et puis ensuite, un texte de loi pour expliquer que 62 ans c'est l'âge légal, mais que 64 ans sera probablement l'âge qui permettra d'avoir une retraite confortable, expliquer que c'est fini pour 42 régimes spéciaux, expliquer à plein de fonctionnaires qu'on cesse de calculer leur pension de retraite sur les 6 derniers mois, mais sur l'ensemble de leur carrière, donc le plus dur va commencer. Après il y a la question du budget, il faut financer les fameux gains de pouvoir d'achat qui ont été accordés après la crise des gilets jaunes, mais sans complètement plomber les entreprises qui risquent d'être mises à contribution. Et puis aussi il faut assurer l'équilibre des finances locales, c'est bien joli de supprimer la taxe d'habitation qui disparaît en novembre, et d'ailleurs qui disparaîtra pour tout le monde, tous les Français, d'ici la fin du quinquennat. Mais ça va créer des trous qu'il va falloir combler sans forcément remettre en cause toutes les promesses de recul du déficit qu'on a pu faire auprès des Européens. Il y a l'agriculture, troisième dossier très compliqué. La sécheresse a complètement fragilisé le secteur. Et puis, il y a une opposition très marquée au libre-échange, notamment au fameux accord CETA, qui a été adopté au mois de juillet, qui va encore passer devant le Sénat. Enfin, il y a le chômage. Le chômage recule, mais recule pas vite. On est à 8,5% de chômage, 8,5% de la population active. Alors, c'est le plus bas niveau depuis 2009. Seulement, la promesse de tomber à 7% à la fin du quinquennat est quand même très difficile à tenir. Et alors, on verra ce que produira la réforme de l'assurance chômage, puisqu'elle va rentrer véritablement en activité, enfin, dans le vif du sujet à l'automne. On verra si, effectivement, toutes les mesures qui consistent à inciter au retour à l'emploi fonctionnent ou pas.
On parle toujours de rentrée à risque. Est-ce que cette rentrée, elle est potentiellement plus risquée que celle de l'année dernière?
Très clairement, la croissance a ralenti, c'est évident. 1,4% pour cette année, c'est pas du tout acquis. Il y a un risque de récession officielle en Allemagne. Il y a même une volonté aux États-Unis d'éviter tout risque de récession, peut-être en votant de nouvelles baisses d'impôts. Ça, c'est du côté de Donald Trump. Après, on a quand même deux risques politiques majeurs en Europe. C'est la crise italienne, avec le risque d'avoir une coalition d'extrême droite, après la démission qui a été validée du Premier ministre Giuseppe Conte. Puis, bien sûr, le Brexit, avec la presse, incarné désormais par Boris Johnson, un no deal est parfaitement crédible. Enfin, on a le record, ça a été confirmé par la Banque de France hier, de dette publique et privée, mais surtout de dette privée en France. Toutes les graves crises naissent d'un problème de surendettement, et là, on a effectivement un problème de dette très important, privée, des entreprises, des ménages, qui est gonflé par les taux historiquement bas que nous connaissons. Là où on est à peu près à l'abri, c'est qu'on n'est quand même pas en risque de récession en France, qu'on est peu exposé au soubresaut du commerce mondial, car nos exportations sont quand même pas un atout du pays, véritablement, que les créations d'emplois sont encore là, même si elles sont moins dynamiques qu'il y a un an et demi. On a aussi un niveau d'attractivité de la France qu'on n'avait jamais connu, qui a considérablement augmenté. Et puis ces taux historiquement bas, ils ont des effets pervers, car ils poussent au surendettement des ménages et des entreprises, mais ils ont aussi un atout, c'est qu'ils permettent de réaliser d'énormes économies budgétaires pour le gouvernement, puisqu'on peut estimer qu'à peu près 4 milliards de charges de la dette ne seront à dégrever de ce qui était prévu grâce au taux que nous connaissons aujourd'hui, taux proche de zéro.
Merci beaucoup Nicolas Dos pour toutes ces explications. Le dossier du budget, donc on en reparle juste après le journal. Aujourd'hui, c'est le premier voyage officiel, Étienne, pour Boris Johnson. Premier voyage officiel à l'étranger, bien sûr, pour Boris Johnson. Il rencontrera tout à l'heure Angela Merkel.
Oui, il se rend aujourd'hui à Berlin, avant d'être demain à Paris pour rencontrer Emmanuel Macron. Boris Johnson va demander aux dirigeants européens de faire des compromis sur l'accord de sortie du Brexit. On voit tout cela en détail avec Virginie Cook.
Des discussions qui s'annoncent tendues. La stratégie de Boris Johnson, c'est de diviser les Allemands et les Français. Emmanuel Macron a toujours été tenant d'une ligne plus dure vis-à-vis des Britanniques, alors qu'il y a quelques mois, Angela Merkel avait une position plus conciliante. Il faut dire qu'un no deal aurait de lourdes conséquences sur l'économie allemande, très dépendante des exportations. Mais aujourd'hui, il semble peu probable qu'Angela Merkel accepte des concessions. Elle aussi a durci le ton face aux Britanniques. Dans une déclaration hier, elle a affirmé qu'elle attendait des solutions pratiques pour se passer éventuellement du backstop, ce filet de sécurité qui obligerait le Royaume-Uni à rester dans l'union douanière si aucun accord commercial n'était trouvé avec l'UE au bout de 2 ans. Mais jusqu'à présent, les Britanniques n'ont pas réussi à proposer d'alternatives viables. Boris Johnson a bien conscience que l'accord de sortie a peu de chances d'être négocié, mais ce marathon diplomatique a surtout une dimension politique. En cas de no deal, le Premier ministre veut faire porter le chapeau aux Européens, aux de son opinion publique.
Et pendant ce temps, on a l'Italie qui est plongée dans l'incertitude politique puisque le président italien Sergio Mattarella a accepté hier la démission du chef du gouvernement Giuseppe Conte. Il recevra dès aujourd'hui les chefs des partis afin de savoir si une nouvelle coalition peut être formée, sans quoi il faudra dissoudre le Parlement et revoter.
Et sur le plan diplomatique, on a un nouveau dossier qui devrait s'inviter au sommet du G7. C'est la question de la réintégration de la Russie.
Avec Donald Trump qui souhaite un retour de la Russie dans le G7 qui a été exclu, il faut le rappeler, en 2014, après l'annexion de la Crimée. De son côté, la France, ce matin, a annoncé que la réintégration de la Russie dépendra notamment de la situation en Ukraine. Et puis, hier soir aussi, Donald Trump a abordé la situation de l'économie américaine, qui se porte bien, selon le président américain, mais elle se porterait encore mieux, à en croire la Fed, si la Fed baissait ses taux avec un programme d'achat d'actifs plus important. C'est en tout cas ce qu'a demandé Donald Trump.
Dans l'actualité des entreprises, on parle aérien, Étienne.
Oui, avec cette journée très importante pour XL Airways, ses actionnaires sont convoqués aujourd'hui pour une assemblée générale au cours de laquelle ils vont évoquer l'avenir de la compagnie aérienne qui visiblement est en grande difficulté. On fera le point tout à l'heure dans le journal de midi et demi.
Et puis, le réseau ferroviaire français est-il vraiment sûr? C'est la question que se pose l'établissement public de sécurité ferroviaire. C'est le gendarme du ferroviaire qui met en avant des anomalies.
C'est un rapport qui a été dévoilé hier soir par Le Parisien. Selon le quotidien, les enquêteurs de l'EPCF, c'est le gendarme du ferroviaire, trouvent des dizaines d'anomalies sur les voies. Le problème de maintenance ayant conduit des accidents comme celui de Brétigny-sur-Orge en 2013 persiste selon ce rapport. La SNCF a confirmé l'audit tout en le minimisant. Si l'EPCF avait noté des situations graves, il en a l'obligation de demander des mesures et ce n'est pas le cas, retorque de son côté la SNCF.
Il y a un titre qui se portait particulièrement bien, la Bourse de Paris, c'est Renault. Je pense qu'il gagne toujours un petit peu, Antoine Larigauderie.
Oui, on est toujours en tête des progressions du CAC, plus 4,6% effectivement.
Alors comment ça se fait, Étienne?
C'est suite à un article de la presse italienne qui évoque une reprise des négociations entre Fiat et Renault en vue d'une alliance. Il faut le rappeler que le dialogue n'avait pas débouché sur un accord en juin, quand Fiat avait brusquement retiré son offre.
Et puis Apple qui veut concurrencer Netflix, et pour cela, Étienne, il y met les moyens, et pas qu'un peu.
Ah oui, puisque la firme prévoit d'investir plus de 6 milliards de dollars dans son service de streaming qui va s'appeler Apple TV+, c'est 6 fois plus que le budget initial. Apple veut s'imposer dans la guerre des plateformes et couper l'herbe sous le pied de Disney qui doit lancer son propre service de streaming le 12 novembre. On voit tout cela en détail avec Alexandra Pagé.
Le service n'est pas encore commercialisé ni son succès démontré qu'il défraie déjà la chronique. Pour son lancement dans plus de 100 pays contre 3 pour Disney, Apple mise notamment sur une série au casting prestigieux, Jennifer Aniston, Reese Witherspoon ou encore Steve Carell. Et au budget non moins faramineux, chaque épisode de The Morning Show, la série décrypte les coulisses d'un show télévisé, coûterait plus cher qu'un opus de la dernière saison de Game of Thrones, c'est-à-dire 15 millions de dollars. Ces chiffres donnent le tournis, mais Apple, avec ses 6 milliards de dollars en tout, est encore loin de Netflix qui a déjà investi cette année plus du double pour produire et acheter des programmes. Pour s'abonner à Apple TV+, et donc avoir accès à ses productions exclusives, il faudra a priori débourser le même prix que pour Apple Music ou Apple News+, soit 9,99 $ par mois. Des informations que la firme de Steve Jobs devrait confirmer lors de sa keynote en septembre.
Et puis on a Bolt, cette plateforme de location de trottinettes et de VTC qui a annoncé ce matin se lancer dans la livraison de repas. La concurrence sur le marché de la livraison devient de plus en plus vive puisque la start-up estonienne Bolt, anciennement Taxify, veut concurrencer les Uber Eats, Deliveroo ou encore Just Eat. Bolt Food, c'est donc le nom de cette future plateforme, se lance en Estonie aujourd'hui avant de s'étendre en Lituanie, l'Afrique du Sud d'ici la fin de l'année et probablement en France d'ici l'année prochaine.
Enfin, d'ici là, de l'eau coulera sous les ponts parce que, question mobilité, il y a beaucoup de choses et questions foottech qui se passent. Merci beaucoup Étienne Braque, on vous retrouve à 12h30 pour un nouveau point sur l'info. On fait un point complet sur les marchés. Antoine Larigaudry, donc pour le point bourse, on disait tout à l'heure, ça continue de monter doucement.
Oui, doucement, même fermement, hein, plus 1,36%. On est au-delà des 5400 points sur le CAC 40, 5417 points. Notez que les volumes d'échanges, d'ailleurs, par rapport à hier à la même heure, sont un peu intensifiés. On est du côté des 680 millions d'euros d'actions négociées, donc quand même des investisseurs sur la place et de manière un petit peu plus décidée. Alors, vous parliez de Renault, c'est vrai que le titre gagne 4,8% avec cet article de la presse italienne de Il Sole 24 Ore qui nous parle du fait que visiblement les dirigeants des deux groupes, hein, Renault et Fiat Chrysler, n'ont jamais vraiment cessé de discuter autour d'un projet de fusion. Maintenant, il n'y a rien de bien précis et de rien de bien étayé là-dessus, mais ça suffit au titre Renault de bien remonter la pente parce qu'il faut dire que les semaines passées, il a un petit peu souffert précisément. Donc il y a beaucoup de rattrapage technique là aussi autour du titre Renault qui prend 4,8%, donc 51,11 €. À noter une très belle performance du luxe aussi. LVMH gagne 3% à 366,45 €. Et puis, il y a un autre dossier qui est bien orienté, c'est Seb, avec une opinion à l'achat de Citigroup et un objectif de cours plutôt ambitieux. Le titre gagne 4,9% à 142,50 €. À noter que les deux seuls titres en baisse sur le CAC, c'est Vinci qui perd 0,3% et Engie moins 0,07. Le CAC donc plus 1,37, 5417 points, et l'euro 1,1095 $.
Merci Antoine, on vous retrouve juste après le journal de midi et demi. Restez avec nous, il est 12h12 sur BFM Business. L'orage continue dans un instant. On revient donc sur l'un des casse-têtes de la rentrée pour le gouvernement, le projet de loi de finances 2020. A tout de suite.